Bonsoir, merci d'être venu pour cette conférence Droit et chocolat. Je vous précise juste que pour les personnes inscrites à l'atelier, le point de rendez-vous sera tout au fond de cette salle, donc juste au niveau de l'accueil où on était tout à l'heure. Et nous vous emmènerons donc dans l'atelier qui est un petit peu plus loin. Et je vais très rapidement passer la parole à Jean-Paul Branlard. Parce que, comme vous pouvez entendre, je ne peux pas beaucoup parler. Et donc, c'est beaucoup mieux qu'il vous explique tout ce qu'il y a sur le droit et le chocolat.
Eh bien, écoutez, bienvenue donc, à cette séance de droit alimentaire. Je suis un peu surpris parce qu'il est rare qu'on demande des interventions sur le droit alimentaire. Je l'enseigne dans mon université, qui est à Paris 11. Nous avons fait hier, par exemple, les procès autour du coq au vin. Et puis, avant-hier, on a fait le droit du camembert. Mais ce sont des étudiants qui se destinent à des carrières alimentaires, agroalimentaires, même souvent. Et lorsqu'on m'a demandé si on pouvait dire quelque chose sur le droit du chocolat, et en plus sur un point très précis, qui est en fait l'histoire des deux grandes directives qui réglementent aujourd'hui ce droit du cacao et du chocolat. Et donc, je vous félicite d'avoir une curiosité dans un domaine qui est peu prisé du grand public. Alors, on peut intituler en fait le thème de ce soir 1973-2003, 40 ans de directive européenne cacao et chocolat. Car de 1973 à aujourd'hui, nous avons 40 ans. Et effectivement, ça correspond au règne, si on peut dire, de deux directives européennes. Pour les personnes qui ne seraient pas très bien, les directives européennes, ce sont des textes qui sont faits par, bien sûr, les institutions de l'Union européenne et qui s'appliquent à tous les États membres, du moins dans le principe, sachant que chaque État membre doit ensuite transposer dans son droit interne ce que dit la directive. C'est la différence avec un règlement communautaire qui, lui, est un bulldozer, traverse les frontières des 27 pays membres aujourd'hui et s'applique de la même manière dans les 27 États, sans que chaque État ait besoin de transposer dans son droit interne le règlement communautaire, qui donc, lui, est source directe du droit. Alors que les directives, ce n'est pas ça. Le texte donc est envoyé, on pourrait dire, au gouvernement des États membres et on leur donne un délai qui est en général de plusieurs mois, voire plusieurs années, pour que, selon chaque pays, selon son propre législateur, ici les députés-sénateurs, là les rois qui légifèrent, ailleurs des assemblées différentes, que chaque législateur national transpose donc dans son droit interne ce qu'impose la directive. Et si jamais les États n'ont pas transposé la directive dans le délai butoir, un an, deux ans, trois ans parfois, eh bien la Commission de Bruxelles poursuit l'État devant les juridictions communautaires dans le cadre d'un recours en manquement et l'État finit par être condamné à des sanctions financières gigantesques et il a manqué, cet État, à son obligation communautaire. Il n'a pas transposé la directive dans le délai. Bon, ça, c'est pour la toile de fond. Alors, de quoi s'agit-il dans notre affaire ? Donc sur les directives européennes concernant les produits de cacao et de chocolat. Bah, d'abord, c'est un sujet qui touche à la composition du chocolat. Et c'est un débat, en fait, entre d'un côté le maintien des produits de qualité, produits alimentaires, s'entend, mais d'autre côté, de la nécessité aussi d'harmoniser les législations nationales. Car si on veut que le droit communautaire puisse fonctionner, il faut tout de même qu'il y ait une harmonisation sur la définition des produits, la composition des produits. Sinon, eh bien, ça sera une cacophonie gigantesque et ce qu'on appellera sous tel nom ici, en France, correspondra à un autre produit en Belgique sous le même nom. Donc, en fait, le droit communautaire, il vise à une harmonisation tout en essayant le mieux possible de préserver la qualité des produits. Alors, le problème, c'est que, comme chacun a les papilles de son pays, quand vous voulez harmoniser en matière alimentaire, chaque pays a ses traditions culinaires, gastronomique, donc alimentaire, et prétend, si on peut dire, que sa recette est la bonne. Et donc, c'est vous qui devez vous aligner sur la mienne, et non pas moi sur la vôtre. Et c'est précisément ce qui s'est passé dans cette histoire sur la composition du chocolat. Alors, On peut commencer par « il était une fève ». Il était une fois, en quelque sorte. Il était une fois quoi ? Eh bien, dans les années 1970, les autorités communautaires ont décidé d'harmoniser en matière alimentaire la législation des quelques pays membres à l'époque. Car en 1910, nous n'étions pas encore 27 comme aujourd'hui. Alors, le législateur de l'époque communautaire, hein, européen, il a eu l'idée de faire ce qu'on appelle des directives verticales. Les directives verticales, ça veut dire qu'on s'est mis en tête qu'on va réglementer produit par produit. Alors, on va réglementer les confitures, on va réglementer la crème de marron, on va réglementer d'autres produits de ce genre, les sucres, on va réglementer le miel et on va réglementer à un moment donné le cacao et le chocolat. Donc, le problème des directives verticales, comme vous le voyez, on les appelle ainsi, c'est on passe à un produit, puis un autre, puis un autre. Puis à la fin, vous avez plein de directives verticales et donc qui traitent de produits différents. Et puis, ça a commencé en 70. Et le législateur communautaire s'est aperçu, dans les années à peu près 1990, autrement dit à peine 20 ans après, qu'il avait fait fausse route. Car il a compris que si on commence par réglementer produit par produit, vous imaginez, il y a tellement de produits, les saucissons, les saucisses, les andouilles, les nougats, on ne va jamais s'en sortir. Il faudra tellement de directives verticales qu'on sera encore en train d'en faire. Alors il a dit, on va abandonner, dans les années 1990, on va abandonner la technique des directives dites verticales. On va passer à une autre technique, les directives horizontales. Alors les directives horizontales, c'est autre chose. On ne s'occupe plus de produit par produit. On s'occupe par contre de grandes réglementations alimentaires. Exemple, étiquetage. Comment doit être l'étiquetage des produits alimentaires ? Sachant que ça va valoir pour tous les produits alimentaires, quels qu'ils soient. Confiture, chocolat, salade, saucisses, etc. Et puis, également, des directives horizontales pour les additifs. La directive horizontale traite de tous les additifs possibles, imaginables, qu'on peut mettre dans n'importe quel type d'aliment. Et puis, également, des directives horizontales par exemple, tout ce qui concerne les sucres, sucrés et salés. Ce qui fait qu'on est passé d'un abandon de la technique des directives verticales pour aller vers un système de directives horizontales. Donc, on ne s'occupe plus de produit par produit. Mais alors, le problème, qu'est-ce qu'on allait faire des premières directives verticales qui avaient été prises à partir des années 70 et qui n'étaient pas abrogées par les directives horizontales, puisqu'elles ne traitent que de thèmes horizontaux, du genre étiquetage, du genre additif, les arômes, etc. Alors, au lieu d'abroger les directives verticales qu'on avait déjà prises, on a dit on va les conserver. Mais il faut les faire évoluer, les mettre à jour et les mettre en conformité avec les directives horizontales qu'on a fait sur les additifs, sur l'étiquetage, sur les arômes, etc. D'où on s'est lancé dans la réforme des directives verticales qu'on avait faites. Et c'est là que va arriver le problème qui nous est cher de ce soir, la réforme de la directive verticale de 1973, qu'on appelle la directive chocolat et cacao, que l'on va réformer en 2000. Car il va falloir, comme vous le voyez, beaucoup d'années pour réformer cette directive de 73, directive verticale qui traite que du cacao et du chocolat. La directive qui va sortir et qui va réformer cette directive de 73 ne sortira qu'en 2000. C'est vous dire, si vous faites le nombre d'années, ça fait quelques années tout de même. Et pendant cette année-là, il y a eu un conflit gigantesque qu'on a appelé la guerre du chocolat. Alors, pourquoi cette guerre du chocolat ? Voyez-vous, quand on s'est dit dans les années 1990, on va donc mettre à jour nos directives verticales qu'on a faites jusqu'à maintenant et qu'on ne veut pas supprimer. On a dit, on modifie quelques points, on rajeunit pour tenir compte des goûts qui avaient évolué, pour tenir compte également des progrès de la technologie en matière agroalimentaire, et puis pour tenir compte aussi de la nouvelle réglementation, encore une fois communautaire, horizontale. Et on a réformé comme ça la première directive confiture, la première directive miel, la première directive crème de marron, première directive, etc. Et c'est celle sur le cacao-chocolat qui a posé problème, et ce, pendant donc des années. Parce que, au lieu de se contenter de rajeunir cette directive de 1913, cacao et chocolat, eh bien, on s'est dit, celle-là, elle pose un problème que toutes les autres ne posent pas. Car si on vous demandait à des Anglais, par exemple, pour eux, comment ils voient la confiture, comment ils la définissent, en quelque sorte, pour eux, c'est quoi une confiture ? Leur définition de la confiture, culturellement, gastronomiquement, est à peu près la même que la nôtre, ou celle des Belges, ou celle des Allemands. Et ainsi de suite pour d'autres produits comme le miel, etc. Les définitions données sont à peu près les mêmes dans tous les pays membres de l'époque. Sauf que quand on a voulu réformer la directive 73 chocolat, alors là, il y a eu problème parce que les pays de l'Union européenne à l'époque, qui s'appelait encore Communauté économique européenne, étaient divisés en deux camps. Il y avait les 6 pays fondateurs. Alors Allemagne, France, Belgique, les 6 pays fondateurs qui ne concevaient le chocolat comme se composant, au niveau des matières grasses, que de beurre de cacao. Alors comme vous le savez, il y a un cacaoyer, il donne des espèces de ballons de rugby qu'on appelle les cabosses. On casse, quand c'est mûr, la cabosse, on récupère dans un truc qui est tout poisseux, eh bien, les amandes, en quelque sorte, et puis c'est ça qui, après avoir été traité, séché, etc., torréfié plus tard, va nous donner, eh bien, le cacao. Et le cacao, il est composé de cacao sec, et dedans, il y a aussi du beurre de cacao. Et la tradition des 6 pays fondateurs, France en tête, Italie en tête, eh bien, c'est que, quand on fait du chocolat, car le chocolat, c'est mélange de cacao et de sucre. Donc, quand on fait du chocolat, car si c'est que du cacao, ça s'appelle du cacao. Mais si vous mettez du sucre, ça devient du chocolat. Donc, le chocolat pour les pays fondateurs de la CEE, les 6 pays fondateurs, c'est forcément que du beurre de cacao. La matière grasse végétale vient que de là. Mais, comme en 1990, on réforme cette directive cacao-chocolat 73. Il y a des nouveaux pays qui sont entrés dans la CE. Et des pays comme par exemple la Grande-Bretagne, qui est chef de file, eh bien, ont une tradition ancestrale. Depuis très longtemps, ils font du chocolat en intégrant une partie de graisse végétale qui n'est pas du beurre de cacao, mais qui est d'autres graisses végétales. Et eux, ils prétendent qu'il n'y a pas de raison qu'ils abandonnent leur tradition culinaire de chocolaterie et qu'ils doivent pouvoir faire du chocolat en continuant à intégrer des graisses végétales autres que le beurre de cacao. Et les 6 pays fondateurs s'y opposent. Ils disent on ne peut pas appeler chocolat un produit dans lequel on a mis autre chose que du beurre de cacao. Alors, cette guerre du chocolat, elle va durer extrêmement longtemps puisque le Conseil des ministres de Bruxelles voit bien qu'il ne trouvera pas un accord entre les pays fondateurs qui s'opposent à toute graisse végétale autre que le beurre de cacao et les nouveaux entrants dans la communauté européenne. Alors, le Conseil, il confie le bébé, si on peut dire, le cadeau empoisonné, à la Commission de Bruxelles, car dans le système juridique du droit communautaire, c'est la Commission de Bruxelles qui a le quasi-monopole de proposer les réformes. Elle propose, la Commission, et après, c'est le Conseil qui dispose. Alors, le Conseil donc dit à la Commission, on ne va pas y arriver, vous êtes la Commission, c'est à vous de proposer des ajustements, etc. On vous donne 3 ans pour réformer la directive cacao-chocolat. Et en fait, ça va mettre pratiquement 30 ans. Alors, la Commission, elle commence par faire un projet, elle écoute tout le monde, et le premier rapport qu'elle propose, la première proposition en fait qu'elle fait, elle dit on va généraliser les graisses végétales, autres que le beurre de cacao, dans tous les pays de l'Union européenne, à titre facultatif. Ceux qui veulent faire leur chocolat en mettant les graisses végétales, ils en mettront. Et puis ben, ceux qui ne veulent pas en mettre, ils n'en mettront pas. Ceux qui en mettront, ça sera réglementé, il faudra l'indiquer sur l'étiquetage, etc. Mais quand cette proposition de la Commission a été proposée aux États membres, les 6 pays fondateurs s'y sont opposés. On ne veut pas une réforme dans ce sens-là. Alors la Commission s'est remise au travail et on a dit dans un premier temps, on va garder le statu quo. Autrement dit, les États qui interdisent la fabrication de chocolat en mettant dans ce chocolat des graisses végétales autres que le bois de cacao, pourront continuer, tant qu'on n'aura pas réglé le problème, à interdire qu'on fabrique sur leur territoire du chocolat en y incorporant des graisses végétales autres que le beurre de cacao. Quant aux États qui sont partisans, parce que leur tradition, c'est de mettre dans leur chocolat ces graisses végétales autres que le beurre de cacao, nous les autorisons également à continuer. Autrement dit, comme vous le voyez, on n'arrive pas à réformer cette directive de 1973, puisqu'on continue à avoir des États qui autorisent sur leur territoire que l'on fasse du chocolat ainsi, et que d'autres, au contraire, l'interdisent. Alors, très bien, donc statu quo, on continue à chercher une solution pendant ce temps-là, et il arrive que les Britanniques, notamment, font des chocolats comme ils en ont l'habitude en y mettant des graisses végétales autres que le beurre de cacao. Et bien sûr, ils veulent les exporter dans les autres pays membres. Et voilà que l'Espagne et l'Italie, eh bien, bloquent leur exportation. Les Espagnols et les Italiens disent que vous ne pouvez vendre votre produit que vous vous appelez chocolat, vous ne pouvez les vendre chez nous que sous le nom de succédané de chocolat. Donc vous voyez, l'Italie, hein, pour faire simple, anglais, vous fabriquez votre chocolat avec des graisses végétales autres que le beurre cacao. Si vous voulez les vendre en Italie, il faudra les appeler donc succédané de chocolat. Vous remarquerez que ce n'est pas très commercial. Hein. Pour la Saint-Valentin, tiens ma chérie, je t'ai acheté un ballotin de succédané de chocolat. Bon. Alors, aussi sec, évidemment, la Commission de Bruxelles poursuit en justice devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui à l'époque s'appelait Cour de justice des communautés européennes, à la fois l'Espagne et l'Italie, pour les faire condamner à quoi ? Parce qu'ils violent ce que l'on appelle la libre circulation des marchandises au sein de l'espace de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, c'est un grand marché, un libre marché. Et quand un produit est légalement fabriqué dans un État membre, il doit pouvoir être commercialisé dans les autres États membres qui ne peuvent pas s'y opposer. Et cela résulte d'un grand arrêt qu'on appelle l'arrêt Cassis de Dijon. Un des grands arrêts du droit communautaire, c'est l'arrêt Cassis de Dijon, où la Cour dit clairement pour la première fois ce principe de libre circulation donc des marchandises, qui consiste encore une fois à dire qu'un produit est légalement fabriqué eh bien, en Grande-Bretagne, selon le droit anglais, il doit pouvoir être librement commercialisé dans tous les autres États membres qui ne peuvent pas édifier donc de barrières. Eh bien, la Cour rappelle ce principe arrêt Cassis de Dijon qu'elle a elle-même rendu plusieurs années avant et elle condamne ces deux États, Italie et Espagne, pour entrave à la libre circulation des marchandises. Très bien. Pendant ce temps-là, la Commission continue toujours à proposer des réformes, à proposer des projets, comment on va sortir de là. Et elle n'arrête pas de présenter des projets de projets et elle n'en sort pas. Le problème, on y sera encore, c'est que la donne, à un moment donné, a changé. Car au départ, pendant toute cette période conflictuelle que je décris très rapidement, nous n'étions que 9 dans la CE, les 6 États fondateurs et 3 nouveaux arrivés, dont l'Angleterre menait la tête. Mais après, on est passé à 12 et puis à 15. Et le camp des opposants, pays fondateurs, qui s'opposaient aux graisses végétales autres que le beurre de cacao dans le chocolat, est devenu minoritaire en quantité. Autrement dit, l'Angleterre avait derrière elle eh bien, d'autres États membres nouveaux entrants qui étaient favorables à l'incorporation de graisses végétales autres que le beurre de cacao eh bien, dans le chocolat. Donc, comme vous le voyez, ça a changé complètement la donne. Et la Commission de Bruxelles a pu à nouveau proposer une énième proposition qui, cette fois-ci, reprenait la règle qu'elle avait déjà posée bien longtemps avant. On va autoriser, c'est-à-dire on va étendre la possibilité dans toutes les pays de l'Union européenne, qui était encore une fois à l'époque toujours la CEE, on va pouvoir étendre dans tous les pays membres la possibilité, si les chocolatiers le veulent, d'incorporer dans le chocolat des graisses végétales autres que le beurre de cacao. Et à condition, propose la Commission, bien sûr, qu'on y ait un étiquetage qui, bien sûr, informe le consommateur, qui donc va savoir s'il est en présence d'un chocolat dans lequel on a incorporé eh bien, certaines graisses végétales autres que le beurre de cacao. Alors, entre-temps, le Parlement, dont je n'ai pas encore parlé, autrement dit les députés européens, ont acquis un pouvoir qu'ils n'avaient pas autrefois. C'est pourquoi autrefois, on leur demandait que leur avis. Alors, votre avis, les députés européens, vous êtes pour ou contre les grèves judiciaires ? Oui, on est pour, on est contre. Ça n'a pas d'importance, c'est un avis. Mais entre-temps, ils avaient acquis le pouvoir de décision. Ce qui veut dire que les directives communautaires, pour être prises, devaient obtenir l'accord du Conseil des ministres de Bruxelles, mais également une décision du Parlement. Donc, les parlementaires, les députés européens, s'en sont mêlés. Pour cette fois-ci, non pas donner un avis, mais un vote. Et, dans un premier temps, ils ont rejeté le projet. On est reparti pour encore énième proposition. C'est pourquoi ça a mis 30 ans tout ça. Hein. Et finalement, un jour, on serait pas là ce soir en train d'en parler, un jour, on a fini, les parlementaires, les députés européens, le Conseil de Bruxelles ont fini par se mettre d'accord sur un texte proposé par la Commission. Et c'est ce texte-là qui va devenir la directive de 2000, on l'appelle 2000/36, car la numéro 36, et la directive verticale. Donc, cacao-chocolat, qui est une directive de l'année 2000, eh bien, c'est elle qui vient abroger la directive chocolat-cacao de 1913 et qui donc la remplace. Alors, cela nous conduit à dire, qu'est-ce qu'il y a dans cette directive, finalement, de 2000 et qui a mis tant de temps, n'est-ce pas, on pourrait dire, à germer. Eh bien, il y a que désormais, cette directive nous dit, sur le point essentiel qu'est le nôtre, les graisses végétales dans le chocolat, que désormais, on peut incorporer dans le chocolat une des 6 graisses végétales, plus une 7e, mais uniquement quand le chocolat est destiné à faire des glaces. Glace au chocolat s'entend. Alors, quelles sont ces graisses végétales, autres que le beurre de cacao, que la directive désigne expressément et limitativement, on n'a pas le droit d'en mettre d'autres, hein, dans l'annexe 2 de la directive. Alors, vous avez une graisse végétale qui s'appelle ilipé, bon, l'huile de palme, là tout le monde connaît, parce qu'on en parle beaucoup, vous le savez bien, sal, S-A-L, qui est une huile également, qu'on fait à partir de noix, la karité, vous avez le cocoon, vous avez enfin les noyaux de mangue. Car avec le noyau de mangue, si vous ne le savez pas, on peut faire eh bien, des graisses végétales. Et puis, alors, celle qu'on peut incorporer dans le chocolat qui va servir à faire des glaces, c'est le copra. Bref, on ne va pas se prendre la tête avec des noms compliqués. Ces 6, quasiment 7 si on prend les matières grasses végétales qui vont servir à faire des glaces au chocolat, ces 7 matières grasses végétales, autres que le beurre de cacao, ont un point commun. Ce sont tous des graisses végétales tropicales. Donc, vous ne pourriez pas y mettre, par exemple, de l'huile de colza ou de la graisse de je ne sais quoi. C'est impossible. Il faut que ça soit forcément une graisse végétale tirée d'une de ces 7 sources-là. Et ce sont tous des graisses issues, n'est-ce pas, de produits tropicaux. Alors, à partir de là, la directive, qu'est-ce qu'elle précise ? En dehors de dire, vous ne pouvez utiliser que ces 7 graisses végétales-là, qui sont toutes tropicales et qui sont considérées au niveau scientifique comme étant l'équivalent de beurre de cacao. Car vous pourriez dire au niveau technique, par exemple, pour les chocolatiers, tout ça, est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est, par exemple, le point de fusion, hein, est-ce que ça va être le même ou pas ? Est-ce que ça va se lier aussi bien avec le cacao que du vrai beurre de cacao ou pas ? Alors tout ça avait été examiné, vous en voyez, on a vu 30 ans pour le faire, hein, et on a conclu, ça ne se discute pas, que scientifiquement, eh bien, elles sont assimilées à du beurre de cacao. Donc, quand on les travaille, si vous voulez, pour les mixer avec du cacao, eh bien, on les travaille de la même manière que du beurre de cacao. Donc, elles sont considérées comme équivalent au beurre de cacao. Et la directive, une fois qu'elle a dit ça, qu'est-ce qu'elle précise ? Elle dit, attention, on va limiter la quantité de ces graisses végétales qu'on peut mettre dans les produits de chocolat. Et elle a limité à 5%. Alors, 5% de quoi ? Ce n'est pas 5% par rapport au beurre de cacao qui figure déjà dans le chocolat. Car j'explique. Quand on fait un chocolat, on a donc du cacao sec et puis on a également du beurre de cacao. Le beurre de cacao, ça ressemble un peu à une meute de beurre. Et c'est extrait de la fève. On extrait de la fève et le cacao sec. Et on extrait de la fève également, n'est-ce pas, le beurre de cacao. Et le chocolatier, c'est son savoir-faire, il mélange selon le dosage ce qu'il veut faire, selon qu'il veut faire des bonbons de chocolat ou du chocolat de couverture ou des tablettes de chocolat. Il met tantôt plus ou moins de beurre de chocolat, car plus vous en mettez, ben plus le chocolat sera souple, etc. Si vous voulez que ça soit plus dur, ben vous mettrez moins de beurre de chocolat, etc. Donc la question est, combien je peux mettre maintenant, puisque la nouvelle directive de 2000, n'est-ce pas, est passée, combien je peux mettre de graisse végétale autre que le beurre de cacao quand je fais du chocolat. Alors, je ne peux en mettre que 5%. Mais 5%, non pas de la quantité de beurre de cacao que j'ai moi-même mis, déjà, forcément. Car attention, je n'ai pas précisé, mais c'est important. La réglementation chocolat, y compris cette directive 2000, elle dit que dans tel produit de chocolat, vous devez avoir au minimum tant de cacao, on va dire sec, pour faire comprendre, et tant de pourcentage de beurre de cacao. Donc ça, vous ne pouvez pas le retirer, ce beurre de cacao-là. La directive, elle permet simplement qu'on ajoute au beurre de cacao existant déjà réglementairement. Je le dis parce que les mauvaises langues, ceux qui sont pour soi-disant le chocolat pur, ils ont une tendance à nous déformer. Et ils comprennent qu'on ne met plus de beurre de cacao et c'est remplacé par de la graisse végétale autre que le cacao. C'est faux. Le chocolatier qui fait du chocolat avec des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, il est obligé de respecter la recette telle qu'elle est prévue dans la directive, dans l'annexe 1, car ça c'est dans l'annexe 1. Autrement dit, quand il fait tel type de chocolat, il faut qu'il mette tant de pourcentage de cacao sec et tant de pourcentage de beurre de cacao. Maintenant, s'il veut en plus, c'est là qu'il va pouvoir mettre 5% de graisse végétale autre que le beurre de cacao. Et ces 5%, c'est par rapport à quoi ? C'est par rapport, eh bien, au produit fini. Mais au produit fini, chocolat. Car comprenez bien, il y a des chocolats auxquels on peut rajouter des amandes, des noisettes, pensez aux tablettes par exemple. Alors, quand on calcule le 5% maximum qu'on peut mettre dans le chocolat, c'est non compris les comestibles qui ne sont pas chocolat. Autrement dit, non compris les noisettes, les amandes. Ce qui veut dire que si je fais des tablettes de chocolat aux graisses végétales autour du beurre de cacao, je ne tiens pas compte donc du poids de mes noisettes que je vais mettre dans cette tablette si je fais une tablette aux noisettes. Je tiens compte uniquement du poids de mon cacao sec, du poids de mon beurre de cacao que j'introduis, et ça va être 5% de ça que je vais ajouter. Je ne peux pas aller au-delà de 5%. Autrement, ça serait contraire au droit, et là, il y aurait infraction qui, en France, serait une tromperie. La tromperie, c'est 2 ans de prison et 37 500 euros d'amende. Bien qu'on mette rarement les chocolatiers en prison pour des choses pareilles. Mais enfin, il risque l'amende et tout de même aussi la publicité, des fois, du jugement, qui est une mauvaise situation pour lui. Dans la presse, ça ne fait jamais, évidemment, une bonne publicité. Donc, comme vous le voyez, on a limité la directive. Limite donc à 5% par rapport aux produits finis, aux produits uniquement chocolat. Pas les comestibles qu'on pourrait rajouter comme du maïs soufflé ou bien noisettes, amandes, etc. Et s'ajoute maintenant, comment est-ce que le consommateur va le savoir ? Alors la directive a tout prévu, puisqu'on a mis 30 ans pour la faire. Elle a prévu qu'on va alerter le consommateur quand dans ce chocolat il y a des graisses végétales autres que le beurre de cacao de la manière suivante. Il faudra que figure une fois sur l'étiquette, donc sur l'emballage, hein, c'est ce qu'on appelle donc l'étiquetage, il faudra qu'il y ait une fois la mention, eh bien, contient des graisses végétales en plus du beurre de cacao. Donc vous voyez, c'est un peu long, hein, donc il faut quand même prévoir lorsqu'on fait l'étiquetage d'un tel chocolat. Donc contient en plus des graisses végétales, donc en plus que du beurre de cacao. Et cette phrase-là, elle doit se trouver dans le même champ de vision, dit la directive, que la liste des ingrédients. Donc, quand vous prenez une plaquette de chocolat, vous cherchez la liste d'ingrédients, vous allez trouver juste à côté, eh bien, cette mention contient des graisses végétales en plus que le beurre de cacao. Et vous devez avoir à côté également la mention donc chocolat. Ou chocolat au lait, si c'est chocolat au lait, ou chocolat de couverture, ou bonbon de chocolat, etc. Donc, vous trouvez en fait, les trois choses, la mention contient des graisses végétales en plus que le beurre de cacao, ça se trouve juste à côté de la liste des ingrédients, et à côté également de cette mention, on doit avoir en caractère tout aussi gros la mention chocolat. Ce qui fait que le consommateur ne devrait pas rater. Il va forcément voir que ce chocolat, il contient, on a mis en œuvre des graisses végétales autres que le beurre de cacao. La directive est un petit peu roublarde, car elle dit qu'on a le droit de mettre la dénomination de vente chocolat, une autre fois sur l'emballage, à part, à un autre côté. Or, ça veut dire quoi concrètement ? L'agroalimentaire qui fait un tel chocolat, elle va mettre sur la face du dessus, en gros caractère, chocolat tout court, et sur la face d'en dessous, C'est là que vous avez la mention « contient des graisses végétales autres que le beurre de cacao, en plus du beurre de cacao » et que vous avez évidemment les ingrédients avec la mention « chocolat ». Si vous ne retournez pas la plaquette au moment où vous l'achetez, vous risquez que de voir « chocolat » sur la face et si une fois rentré chez vous, il sera trop tard, vous aurez acheté, n'est-ce pas, la tablette, que vous allez découvrir ce chocolat est aux graisses végétales autres que le beurre de cacao. Donc, c'est un petit inconvénient en quelque sorte. Mais la directive a essayé de trouver un équilibre pour satisfaire un petit peu tout le monde, car il fallait, encore une fois, ne pas trop mettre de l'huile sur le feu. Et si on voulait que le texte, la directive de 2000 sorte, eh bien, il fallait que chacun accepte ce qu'on appelle le consensus, finalement. On arrive toujours à un texte qui ne satisfait jamais tout le monde, mais qui finit par être admis parce qu'il faut en sortir. Et là, il fallait en sortir, puisque je vous dis, on a commencé à réformer la directive dans les années à peu près 80-90, et on a terminé ça extrêmement tard. On a mis énormément d'années à se mettre d'accord. Alors, au stade où nous en sommes, nous voyons un petit peu comment aujourd'hui le droit européen, d'abord c'est lui qui donne les recettes, comme vous le voyez, hein. Les États membres ne sont plus souverains en la matière. Car je n'ai pas précisé, mais c'est peut-être le moment de le dire, quand il y a du droit européen, il prime les droits nationaux. Vous ne pouvez plus ensuite, au niveau d'une nation, faire un droit qui serait contraire. La France, par exemple, ne pourrait pas voter aujourd'hui une loi qui interdirait que l'on mette des graisses végétales autres que le beurre de cacao dans le chocolat. Les juges français ont même l'obligation de ne pas appliquer une telle loi française, alors qu'elle serait postérieure aux textes communautaires, car les textes communautaires sont supérieurs aux droits nationaux. Alors, au stade où nous en sommes, la question, bien sûr, que vous vous posez, c'est comment se faire une opinion ? Est-ce que le chocolat qu'on peut faire si on veut, car ce n'est pas obligatoire, en y incorporant 5% de graisse végétale autre que le beurre de cacao, est-ce que c'est mieux ou moins bien ? Autrement dit, est-ce que les Anglais qui font du chocolat avec des graisses végétales autre que le beurre de cacao depuis près d'un siècle, c'est bien ? Et c'est eux peut-être qui ont raison. Ou est-ce que c'est nous, Français, Italiens, qui s'y opposons depuis toujours et qui ont raison ? Alors, pour se faire une opinion, le plus simple, c'est de regarder les arguments contre et les arguments pour. Les arguments contre, qui consistent en fait à dire « moi je suis puriste français ou puriste italien et pour moi il n'y a que chocolat que s'il y a du beurre de cacao dedans et que du beurre de cacao ». Les arguments contre à ce qu'on introduise les graisses végétales au beurre de cacao, qu'est-ce que nous avons ? D'abord nous avons l'argument qui consiste à dire que rationnellement, l'argument 1 consiste à dire que rationnellement c'est incongru. C'est complètement défait que de vouloir incorporer dans du chocolat autre chose qui ne serait pas issue de la fève de cacao. Donc, on fait remarquer, ce n'est pas donc du tout rationnel, ce serait incongru que de mettre une autre graisse que ce qui est dans la fève de cacao. Le deuxième argument consiste à dire que quand vous ajoutez un produit de substitution, à savoir, par exemple, de l'huile de palme, eh bien, vous dénaturez une matière noble, qui est la fève de cacao qui contient le cacao et le beurre de cacao. Vous dénaturez donc une matière noble. Et la fève de cacao, elle a déjà sa graisse végétale, et elle s'appelle le beurre de cacao. Puis, un troisième argument consiste à dire que appeler un produit chocolat, alors que on l'a composé en partie seulement, puisqu'il y a toujours du beurre de cacao dedans, hein, vous rappelez. Hein. On ajoute simplement les matières grasses végétales autres que le cacao. Toujours est-il que appeler chocolat un produit qui est composé en partie avec d'autres graisses, ça correspond à une falsification. C'est comme si on disait qu'on va ajouter, par exemple, de la graisse de palmipède de canard à un steak de bœuf qui a déjà de la graisse. Et on va continuer à l'appeler steak de bœuf. C'est complètement incohérent. On ne pourrait pas appeler steak de bœuf un steak dans lequel on a réincorporé de la graisse de palmipède. Il faut lui donner un autre nom. Bon, vous me direz, avec l'expérience récente avec le cheval, on a vu pire. Mais c'est un argument développé par les puristes. Et puis, il y a un quatrième argument développé par les puristes. Celui-là, il fait presque pleurer. On nous fait remarquer que tous ceux qui ont voulu introduire des graisses végétales dans le chocolat, autre que le beurre de cacao, en fait, ils l'ont fait pour une raison économique. Ils l'ont fait pour une raison économique et qui sait qu'en profite ? La grande industrie agroalimentaire qui se trouve dans les pays du Nord, les pays riches. Et ça profite à qui ? Qui va payer moins cher les chocolats ? Les croqueurs, les mangeurs, qui sont des gens des pays riches. Car ce n'est pas ceux qui plantent les cacaoyers et qui récoltent, qui croquent le chocolat. Donc, qui profite en fait de l'incorporation de graisses végétales qu'on paye beaucoup moins cher que le beurre de cacao ? Eh bien, c'est l'agroalimentaire, donc les industriels de l'agroalimentaire et les consommateurs de chocolat, que sont les consommateurs en fait dans les pays riches. Et qui c'est alors qui, ma foi, est la victime ? Eh bien, les producteurs de fèves de cacao, qui sont des gens qui, vous le savez, sont dans des pays en voie de développement pour la plupart et qui vivent misérablement. Et dont la survie eh bien, est en cause, puisque bien sûr, leur survie tient à la vente de fèves de cacao. Et par hypothèse, ils devraient en vendre moins, puisque ça peut être remplacé pour une partie par d'autres graisses, huile de palme, karité, etc. Donc, voyez-vous, les détracteurs, ceux qui plaident pour le chocolat pur, eh bien, ils disent c'est purement économique, il faut donc arrêter ça. Mais il y a aussi les arguments pour, ne croyez pas. On les oublie trop souvent en France parce qu'on est obsédé par le soi-disant chocolat uniquement au beurre de cacao. Il y a les arguments pour. Premier argument pour. Quand vous incorporez des matières grasses autres que le beurre de cacao dans du chocolat, eh bien, voyez-vous, c'est connu, il résiste mieux à la chaleur. Or, il y a des pays où c'est très difficile de pouvoir manger du chocolat. Vos tablettes font dans la poche. Donc, et même chez nous l'été, vous le savez bien, si on a laissé un peu de tablette de chocolat en plein soleil, au mois d'août, ou sur la plage, vous en avez partout. Or, les graisses végétales, eh bien, ralentissent cette fonte. C'est un argument non négligeable, à la fois pour ceux qui arrivent le chocolat et ceux aussi qui vont le consommer. Ils résistent mieux à la chaleur. Deuxième argument. Grâce aux graisses végétales autres que le beurre de cacao qu'on peut incorporer, le chocolat blanchit moins rapidement. Et vous savez combien c'est désagréable de retrouver chez soi un bonbon de chocolat ou une tablette de chocolat qu'on n'a pas touchée depuis longtemps et elle est toute blanche, au point que certains se disent « Oh bah, fous-la à la poubelle !» Or, elle est consommable. C'est simplement la graisse du beurre de cacao qui remonte à la surface. C'est dommage de l'acheter. Vous n'avez qu'à me les envoyer, hein, on est preneurs. Donc, mais on n'a pas envie de les manger. Or, justement, quand vous mettez des graisses végétales autres que le beurre de cacao dans le chocolat, ça ralentit le blanchiment. Donc, deuxième argument technique décisif. Troisième argument. Les matières grasses végétales autres que le beurre de cacao permettent des mélanges de saveurs, des mariages, que ne permettent pas aussi bien les chocolats qu'au beurre de cacao. Par exemple, si vous voulez faire un mariage, chocolat-menthe. Eh bien, si vous avez incorporé des graisses végétales autres que le beurre de cacao dans votre chocolat, le mariage chocolat et menthe se fera bien mieux. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les Anglais ont beaucoup de chocolat-menthe. Quatrième argument. Eh bien, l'incorporation de graisses végétales autres que le beurre de cacao permet une meilleure rentabilité. Car ces graisses végétales dont nous avons cité les noms tout à l'heure au nombre de 7, selon ce qu'elles sont, elles valent 3 à 10 fois moins cher que du beurre de cacao. Donc vous pensez bien qu'un industriel de l'agroalimentaire qui fabrique des chocolats par tonne chaque jour, s'il incorpore 5% de graisses végétales autres que beurre de cacao, au lieu d'utiliser une augmentation de beurre de chocolat, il fait un gain considérable puisque selon les graisses végétales dont j'ai donné les noms, elles peuvent valoir 3 à 10 fois moins cher sur le marché que le beurre de cacao. Donc, comme vous le voyez, un argument non négligeable. Puis, cinquième argument, on fait remarquer que ce qui donne les caractéristiques essentielles à un chocolat, c'est ce qu'on appelle ses qualités organoleptiques, c'est ce qui vient de la fève. Autrement dit, le cacao sec et le beurre de cacao, et surtout le cacao sec. Or, le fait qu'on rajoute un peu, puisque c'est limité à 5%, de graisse végétale autre que le beurre de cacao, eh bien, ça ne modifie pas, fait-on remarquer, ça ne modifie pas substantiellement, voyez-vous, les caractéristiques du produit. Donc, de quoi vous vous plaignez ? Ça sera pareil. Puis, sixième argument, notre propre service des fraudes, il dit que le beurre de cacao, eh bien, ça sert uniquement pour la technique de fabrication, mais pour le goût, ça sert à rien. Ah, pourquoi il dit ça ? Car vous pouvez dire, tiens, il est devenu fou. service des fraudes, c'est la DGCRF en France, c'est elle qui combat pour le respect du droit alimentaire. Est-ce qu'elle serait tombée dans le camp adverse ? C'est parce que, voyez-vous, elle a eu à régler la question suivante. Il est à la mode aujourd'hui, vous savez bien si vous êtes des croqueurs de chocolat, qu'on indique de plus en plus aux consommateurs sur l'étiquetage d'où provient le cacao, la fève de cacao. Alors on lui dit par exemple, ça c'est une tablette de chocolat Équateur. Oh, c'est bien parce que l'Équateur produit de très bonnes fèves de cacao, donc de très bons cacao, donc ça va faire de bons chocolats. Ou encore Madagascar, où là il y a des cacaos fins. Donc je vois sur ma plaquette, chocolat cacao Madagascar ou cacao Équateur. Et je vois à côté beurre de cacao. Et après sucre, etc. Ça c'est les ingrédients. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour faire ce chocolat, on a rajouté du beurre de cacao qui n'était pas celui des fèves qui est déjà incorporé dedans. Et ce beurre de cacao, le chocolatier l'a acheté ailleurs. Il ne vient pas de Madagascar. Il vient par exemple des fèves de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un très gros producteur de fèves de cacao, mais qui n'est pas considéré comme du cacao fin, sauf quelques contrées de ce pays. Ce qui fait que ce chocolatier a acheté le beurre de cacao. Exemple en Côte d'Ivoire, donc quand même pas trop cher, mais c'est du beurre de cacao. Et il l'a incorporé dans son cacao qui contient également du beurre de cacao de l'Équateur. Ce qui veut dire que son chocolat, il va l'appeler, il va donner une origine géographique, tablette de chocolat, et il va mettre cacao Équateur. Il va rajouter à côté beurre de cacao. Ça se décode comme ceci. Ça veut dire que Équateur, ça correspond au cacao et au beurre de cacao qui est dans la fève qui vient de l'Équateur. Et s'il a rajouté à côté, dans les ingrédients, beurre de cacao, alors le beurre de cacao ne vient pas de l'Équateur. Alors ça peut venir de la Côte d'Ivoire, par exemple. Et après, il y a sucre, noisette ou cacahuète, etc. Hein, les ingrédients, on ne va pas tout à faire. Eh bien, la DGCRF vous dit, quand vous faites du chocolat et que vous rajoutez du beurre de cacao qui vient d'ailleurs, ça n'empêche pas que vous avez le droit de dire que votre chocolat, c'est Équateur ou que c'est eh bien, tel autre pays qui est connu pour son chocolat fin. Autrement dit, la DGCRF vous dit que le fait de rajouter du beurre de cacao qui viendrait de Côte d'Ivoire ne vous interdit pas d'appeler votre chocolat Équateur ou un autre pays qui a pour renommée de faire du cacao fin. En clair, c'est parce que le chocolat ne joue pas un rôle essentiel dans les qualités organoleptiques du pays. Donc par ce biais-là, on retrouve cette idée que le beurre de cacao, finalement, ne joue pas le rôle que le consommateur imagine. Et puis enfin, il y a un septième argument. C'est que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Car si nos producteurs, pauvres producteurs de cacao des pays pauvres, vont être touchés du fait qu'on ne va pas incorporer du beurre de cacao puisqu'on va incorporer des graisses végétales comme l'huile de palme, etc. Eh bien, ces graisses végétales viennent des pays tropicaux, viennent donc de pays pauvres et des fois de pays encore plus pauvres que les pays qui produisent les fèves de cacao. Pensez au Mali, par exemple, qui produit l'huile de palme. Allez donc demander à un Malien qui n'a rien à manger s'il n'est pas content de la directive, car lui, il vend plus d'huile de palme, forcément. Donc, voyez-vous, l'argument consiste à dire c'est vrai que ça peut faire vendre moins de fèves de cacao à certains, mais ça fera vendre des graisses végétales au cacao à d'autres qui sont de pays pareils, encore plus pauvres souvent. S'il faut choisir entre les plus pauvres des pauvres, autant aller vers les plus pauvres des pauvres, ils ont plus besoin d'aide. Donc, c'est le septième argument. Et puis, un huitième, car je ne vais pas en faire 50, huitième argument favorable. C'est peut-être un argument des plus décisifs. Parce que lorsqu'on combattait pendant des années le camp des pays fondateurs contre l'Angleterre qui voulait faire passer sa recette en quelque sorte. On disait, on ne peut pas de toute façon parce qu'on n'a pas les moyens techniques de vérifier si vous avez incorporé dans du chocolat des graisses végétales, ni non plus de mesurer, puisqu'il faut que ça ne dépasse pas 5%. Alors on disait techniquement, scientifiquement, on n'a pas les moyens techniques. Donc on ne peut pas faire une directive qui va dire on va mettre des graisses végétales au beurre de cacao à hauteur de 5%. Puisque, un, on n'a pas les moyens techniques de détecter les graisses végétales au beurre de cacao, et puis on ne peut même pas les mesurer, puisqu'on ne peut même pas les voir. Donc ça, c'était un argument qu'invoquaient, bien sûr, les pays qui s'opposaient. Mais c'est comme tout, la science avance. Et quand on a sorti la directive verticale nouvelle en 2000, qui contient le droit que je suis en train d'exposer, il y avait déjà les premiers essais qui étaient faits, où on commençait, à titre expérimental, à savoir détecter dans un chocolat les graisses végétales, eau de col, beurre de cacao, et à savoir les quantifier, afin de savoir quoi ? Si la réglementation était respectée, bien sûr. Sinon, il y a tromperie. Et tromperie, c'est un délit pénal, encore une fois, 2 ans de prison, 37 500 euros d'amende, multiplié par 5 quand c'est une personne morale, l'amende, car les personnes morales ne vont pas en prison. Ce sont des attributs matériels. Comment voulez-vous les mettre derrière les barreaux ? Alors, pour elles, c'est l'amende, multiplié par 5. Donc, ça pouvait se discuter, cette histoire, jusque dans les années 2000 et quelques, puisque scientifiquement, aucun État ne pouvait prouver qu'il avait les moyens techniques de déceler les graisses végétales de cacao et de les quantifier. Eh bien, la France, la DGCRF, a 11 laboratoires en France, qu'on appelle des SEL, S-E-L. Et un de ces laboratoires est à Bordeaux. Et dès que la directive de 2000 a été faite, eh bien, les scientifiques du laboratoire de Bordeaux ont commencé à faire les essais et les recherches. Et ils ont assez rapidement trouvé les moyens techniques, scientifiques, de déceler dans un chocolat des graisses végétales autres que le cacao et de les quantifier. Et aujourd'hui, en 2013, eh bien, quand il y a des contrôles du service des fraudes, vous savez que si vraiment ils ont un doute, ils saisissent des échantillons, autrement dit des tablettes, on va dire, ou des bonbons, etc. Et puis, il y a une procédure qui est respectée, hein, c'est bien sûr, tout ça c'est réglementé. Il faut analyser par le laboratoire de Bordeaux, eh bien, si effectivement, dans ce chocolat, il y a des graisses végétales. Dans ce cas-là, sur la plaquette, sur l'étiquetage, on aurait dû avoir la mention « contient des graisses végétales en plus que le beurre de cacao ». Et puis, ça, dans le champ de vision de les ingrédients. Et puis, à côté, le mot « chocolat ». Et s'il n'y avait pas, paf, infraction. Ou alors, il l'a mis, mais ça dépasse 5%, puisqu'on peut quantifier. Donc, voyez-vous, l'argument qui consiste à dire pendant longtemps « ah, on ne peut pas, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens techniques de, en fait, faire les contrôles », c'est tombé depuis, ça va de soi. Donc, voyez-vous, j'ai aligné ici pas moins, finalement, de 8 arguments pour. On aurait pu encore en rajouter d'autres. Hein. C'est pour dire qu'il est très difficile de se prononcer sur cette question. Est-ce que je suis pour ? C'est un peu, si vous voulez, on ne va pas remettre ça, mais c'est un peu comme le mariage pour tous, si vous voulez. Hein. On n'en finira pas autrement. Alors là, on en a fini comme ça, avec cette histoire de directive de 2000 qui a réglé tant bien que mal, qui ne satisfait pas tout le monde, mais qui quand même existe. Sinon, on en serait encore en train de chercher la voie. Et des pays interdiraient sur leur territoire, d'autres autoriseraient toujours. Ce n'est pas possible, le droit communautaire doit harmoniser. Alors, le point final, tout de même, c'est quelle est la réaction des États ? Car les États sont comme les hommes, hein. Ils ont envie de se venger. On a perdu, mais on veut essayer. Vous avez bien vu, il y a déjà des gens qui ont fait des déclarations. Moi, je ne célébrerai pas les mariages. Oui, mais vous encourez la prison et l'amende. M'en fous, j'irai en prison, je paierai l'amende. Vous avez vu, déjà hier. Eh bien, c'est pareil pour le chocolat. Les États, il y a des mauvais perdants, en quelque sorte, ou qui ne veulent pas lâcher. Alors, il y a eu des réactions. Et il y a eu des réactions condamnables et condamnées. Et puis, il y a des réactions, on attend de savoir qu'est-ce que diront les juges si jamais ils étaient saisis. Alors, je vais prendre 2 exemples. Première réaction, une réaction qui a été condamnée, c'est une affaire assez récente qui condamne l'Italie. L'Italie, avec la France, ont été les fers de lance des opposants de tout temps à ce que l'on incorpore les graisses végétales autres que le beurre de cacao dans le chocolat. Au lendemain de la directive de 2000 qui est rentrée en vigueur, la directive de 2000, je ne l'ai pas dit, elle est rentrée en vigueur en 2003. Parce que comme je vous l'ai expliqué au début, quand une directive est prise, on laisse aux États un délai assez long pour qu'ils transposent la directive dans leur droit interne. Et la directive, quand elle était publiée au JO de l'Union européenne, elle a dit aux États, on vous laisse jusqu'au 3 août pour transposer dans le droit interne, 3 août 2003. 2003, donc on vous laisse quasiment 3 ans pour transposer dans votre droit interne chacun la directive. Alors il y a des États qui ont légiféré rapidement pour incorporer la directive dans leur droit interne. La France a attendu le dernier jour. On a pris le décret de transplantation, de transposition de la directive le dernier jour. Donc, vous voyez, on avait jusque donc au 3 août 2003, et nous, le décret est rentré en vigueur. Il était paru le 29 juillet 2003, et il est rentré en vigueur le jour même où, qui était le jour butoir. Ça vous montre la mauvaise volonté de la France qui traînait les savates exprès pour montrer aux autorités de Bruxelles qu'on n'accepte pas cette directive. Mais il a bien fallu, autrement on a été condamné financièrement. Alors l'Italie, elle, c'est pire. L'Italie, dès que la directive est rentrée en application en Italie, car il a bien fallu qu'elle transpose aussi, l'Italie a fait une loi. Et elle a dit, en Italie, lorsque un chocolat est fait uniquement avec du beurre de cacao, eh bien on peut sur l'étiquetage mettre chocolat pur. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont faits avec des graisses végétales autres que le beurre de cacao, qu'ils soient faits en Italie ou en Grande-Bretagne, peu importe où, ils ne pourront pas mettre sur l'étiquetage chocolat pur. Eux, ils devront mettre chocolat une fois, par exemple, sur la première face, et puis en dessous, bah, vous savez, la mention contient des graisses végétales en plus que le beurre de cacao, dans la visée de la liste d'ingrédients, avec la mention chocolat. Donc l'Italie dit que on vend en Italie du chocolat qui n'est fait qu'avec du beurre de cacao, alors on peut mettre comme dénomination de vente chocolat pur. La commission de Bruxelles voit ça évidemment, car quand un État légifère, il doit aujourd'hui communiquer à Bruxelles ce qu'il fait. Autrement dit, nous sommes tous des nations souveraines sous surveillance, car quand un État légifère dans un domaine qui est réglementé aussi par le droit européen, il doit dire « je vais faire ça, c'est possible, je viens de le faire, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, la Commission a dit « c'est une déclaration de guerre, Italie !» Et la Commission a demandé à l'Italie d'abroger immédiatement cette nouvelle dénomination de vente « chocolat pur ». L'Italie a dit « non, non, on n'a pas créé une nouvelle dénomination de vente ». Ah bon, c'est quoi alors ? C'est une information que nous délivrons aux consommateurs. La Commission a dit « vous nous prenez pour des idiots ». Et la Commission a traduit devant la Cour de justice de l'Union européenne l'Italie. Et la République italienne a perdu sur toute la ligne. La Cour a rappelé, primo, en vertu de la jurisprudence, eh bien, Cassis de Dijon, vous avez empêché la libre circulation des marchandises. Parce que, en imposant qu'on mette chocolat pur, bah, ceux qui mettent des graisses végétales ne peuvent pas le faire, et donc ça fait une discrimination entre les chocolats, et donc vous entravez la libre circulation des marchandises. Et d'un, et de deux, dit la Cour. La directive de 2000 prévoit des dénominations de vente, telles que chocolat, chocolat au lait, chocolat blanc, etc. La Cour dit, la directive ne prévoit nulle part la dénomination chocolat pur. Puis de trois. La convention, la directive de 2000 dit, il est interdit aux États d'ajouter de nouvelles dénominations que celles qui sont limitativement prévues par la directive. Et la Cour en conclut que l'Italie a ajouté, par un droit national, une dénomination non prévue par la directive. Pour ces trois motifs, déjà, eh bien, la Cour condamne l'Italie qui a dû abroger eh bien, sa disposition. Puis il y a le cas de la France. La France allait essayer de faire autrement pour se démarquer et rejeter en quelque sorte ce qu'elle appelle souvent chocolat impur. La France allait légiférer, les députés sénateurs, pas moins, ont voté une loi en 2001. Donc dès que la directive, on la connaissait, elle était faite, elle n'était pas encore entrée en vigueur, mais on savait déjà qu'elle est rentrée en vigueur en 2003 forcément. On a demandé aux députés sénateurs de voter une loi qui a donné un article qui est inséré dans le Code de la consommation française. Car en France, il y a un Code de la consommation qui traite d'un tas de choses, des crédits automobiles, crédits immobiliers, mais aussi des questions alimentaires comme les AOC, les AOP. Voilà. Et donc, on a demandé aux députés de voter une loi introduite dans le Code de la consommation. Et cette loi, eh bien, je donne le numéro de l'article pour ceux qui veulent aller consulter sur Légifrance, c'est L, ça veut dire partie législative, 112-7. Mais comme vous allez l'apprendre par cœur, ce n'est pas la peine d'aller voir. Cette loi, elle dit ceci. Lorsque on fabrique du chocolat au pur beurre de cacao, eh bien, on peut mettre sur l'étiquetage la dénomination chocolat pur beurre de cacao. Donc, vous mettez pur beurre de cacao. Ou bien, dit la loi, si vous préférez, vous avez le droit de mettre chocolat traditionnel. Ou tout autre, dit la loi française, toute autre expression équivalente. Donc, si je fais du chocolat pur beurre de cacao, je peux mettre soit carrément chocolat pur beurre de cacao, soit je peux mettre chocolat traditionnel ou toute expression équivalente à chocolat traditionnel. Et la loi dit donc qu'on peut mettre ces deux dénominations. Or, suite à la condamnation de l'Italie, on peut se demander si un jour un pays comme l'Angleterre ne va pas saisir et faire un contentieux au niveau européen, ou si une entreprise installée en Angleterre ou ailleurs et qui fabrique du chocolat avec des graisses végétales autres que le cacao ne fera pas un recours contre cela et fera pas tomber devant la cour de Luxembourg, qui est la cour de justice de l'Union européenne, la loi française, comme c'est arrivé à l'Italie. Pourquoi ? Parce que la loi française dit si vous faites du chocolat au pur beurre de cacao, vous avez le droit de mettre, par exemple, chocolat traditionnel. Je dis une première chose. Qu'est-ce qui empêcherait les Anglais de voter chez eux une loi disant que nous faisons depuis plus d'un siècle le chocolat avec des graisses végétales autres que le beurre de cacao, c'est traditionnel aussi chez nous. Donc les Anglais pourraient nous renvoyer la balle, l'appareil, et voter aussi une loi prévoyant que puisque chez eux c'est traditionnel de mettre des graisses végétales autres que le beurre de cacao depuis très longtemps, donc, eh bien eux aussi. Et alors on aurait des paquets de chocolat qui circuleraient, des tablettes avec mention « chocolat traditionnel ». Oui, mais attention, celui-là, c'est traditionnel français. Ça, c'est traditionnel anglais. On n'est pas plus avancé. Donc, comme vous le voyez, un État qui pratique les graisses végétales de cacao pourrait très bien faire voter. Et puis, surtout, un État qui voudrait faire tomber ce qu'on a voté en France pourrait soutenir que la loi française qui permet qu'on mette traditionnel sur des chocolats faits qu'avec du beurre de cacao, eh bien, c'est contraire à la libre circulation des marchandises. Autrement dit, on tombe dans cette histoire de l'arrêt Cassis de Dijon. Pour la raison très simple, c'est que celui qui met des graisses végétales, eh bien, il ne peut pas mettre cette mention traditionnelle. Or, son chocolat, il est aussi traditionnel que l'autre. Donc, il y a une discrimination ici. Cette discrimination est un frein à la libre circulation des marchandises et la Cour pourrait annuler. Et il y a une troisième raison. C'est que la directive dit quand un État veut exprimer que son chocolat est fait au pur beurre de cacao, il doit l'exprimer de manière à ne pas induire en erreur, à tromper le consommateur. Il faut que ça soit quelque chose d'extrêmement clair. Or, regardez bien le problème. C'est qu'en France, quand on dit que quelque chose est traditionnel, dans l'esprit des consommateurs, ça veut dire que c'est un produit de qualité. Or, c'est mensonger, car un chocolat peut très bien être fait au pur beurre de cacao et être infâme, de très mauvaise qualité. Donc, comme vous le voyez, le fait qu'on ait mis chocolat traditionnel, ça se traduit également par on prétend que c'est un produit de qualité. Or, ça peut être faux, puisque ce chocolat pur beurre de cacao peut être fait par un chocolatier abominable, aussi abominable que le chocolat qui sort de ses mains. Donc c'est un autre motif qui pourrait faire tomber encore la loi française. Alors finalement, comme vous le voyez, c'est une affaire à suivre. C'est une affaire à suivre de toute évidence. Alors ce que je vous propose, c'est que pour se faire, c'est de nous retrouver ici, dans 40 ans, comme c'était fait pour la première réforme. Et si nous ne sommes pas plus dans 40 ans, eh bien, au moins, qu'on ne soit pas moins. Voilà, je vous remercie. Donc, rendez-vous dans 40 ans.
Bon, merci.
Oui, bah oui, oui. Du beurre de cacao.
Du beurre de cacao.
Du beurre de cacao, voilà.
Merci. Alors que j'ai visité récemment un chocolatier français, parisien, et il nous a dit que cette pellicule blanche provenait de la cristallisation du sucre.
Alors c'est du sucre. Ça peut aussi se produire ça aussi.
Ça peut aussi se produire.
D'accord. Et puis alors s'il met d'autres choses comme passer de lysine de soja, qui va permettre de faire l'émulsion s'il a mal émulsifié. Si vous voulez, c'est un peu comme si on disait qu'est-ce qui va faire tomber une mayonnaise. Alors là, vous le savez bien, ça peut être la foudre, ça peut être la disposition de la cuisinière, ça peut être mille choses. Donc il y a plusieurs explications. Toujours est-il qu'effectivement c'est agréable. Et on dit que ces matières grasses végétales comme le cacao, on pourrait faire de freiner justement cette remontée. Voilà. Car c'est complexe, hein, la chocolaterie, hein, c'est comme la confiserie. Hein. Alors, on vous a épargné des questions comme la TVA sur le chocolat, car vous savez que selon qu'il est chocolat, une plaquette de chocolat noir, une tablette de chocolat noir, et, n'est-ce pas, à aujourd'hui 5,5 et 5 demain, mais si vous avez la même tablette en chocolat au lait ou en chocolat blanc, elle est en TVA aujourd'hui à 19,60 et elle sera demain à 20. Si vous prenez un bonbon de chocolat, il est en TVA, qu'il soit chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait, il est en TVA aujourd'hui à 5,5, 5 à partir du 1er janvier 2014. Mais si c'est par contre trop gros pour le mettre une seule fois dans sa bouche, tel un palais de chocolat, alors qu'il est fait de la même manière, hein, mais il est plus gros simplement. Hein, si vous pouvez le mettre une seule fois dans la bouche, il s'appelle... dans la directive communautaire et dans le droit donc français, bonbon de chocolat. Le bonbon de chocolat est une notion juridique. C'est le produit de chocolat qu'on peut mettre une seule fois dans sa bouche. Si le juge met une fois dans sa bouche, il va dire c'est un bonbon de chocolat. Donc TVA, on est bien d'accord, que ce soit chocolat blanc, chocolat noir ou chocolat au lait, 5,5 bientôt. Mais si par contre, le juge ne peut rien faire, ou alors c'est un canard, dans ce cas-là, ça c'est le même, hein, mais c'est TVA cette fois-ci, n'est-ce pas, à 19,60, autrement dit, demain à 20. Donc il y a des subtilités à Bercy, si vous saviez ce qu'ils nous font, des choses incroyables. Hein. Sans vous l'épargner, parce qu'après on ne tient plus, là, on n'arrive plus à suivre. Hein. Mais c'est comme ça. Par contre, le pain au chocolat, c'est plus du chocolat, c'est de la viennoiserie. Alors là, c'est une sacrée affaire. Normalement, quand vous l'achetez chez le boulanger, on devrait aujourd'hui vous le taxer à 7%. Mais les boulangers ont fait voter une loi qu'on appelle l'ex amicorum, la loi des amis. Ils ont obtenu, parce que nous payons la TVA à 7% aujourd'hui, qui va être 10% au 1er janvier 2014, quand vous achetez un produit que vous allez manger tout de suite. Par exemple, quand vous achetez un cornet de glace, c'est pour le manger tout de suite. Ça, aujourd'hui, c'est 7%, vous dit le boulanger de TVA. Et au 1er janvier 2014, ça sera 10%. Mais quand vous achetez une viennoiserie, tel un pain au chocolat, ou un croissant d'ailleurs, hein, ça, on présume... par une lex amicorum qui a été votée dans des boulangers, que vous n'allez pas le manger tout de suite. Ce n'est pas pour manger immédiatement, car c'est connu quand vous achetez le matin 8 heures un croissant, bah vous l'emmenez au bureau, vous le ramenez le soir chez vous pour le manger dans la nuit. Dans ce cas-là, c'est TVA à 5,5. Donc quand vous payez le croissant chez la boulangère le matin, c'est TVA à 5,5 ou le pain au chocolat, car vous êtes censé ne pas le manger sur place, alors que la glace, vous la mangez évidemment sur place dans le cornet, et là, c'est TVA à 7. C'est incroyable ce qu'ils inventent. Moi, je suis toujours émerveillé. Je me dis, demain, j'aurais dû faire ma carrière à Bercy, tellement ils sont savants, intelligents. S'ils pouvaient imposer les babouches, à mon avis, ils le feraient, taxer les babouches. Il y a deux pieds là, c'est rentable.
Bon, merci. On va faire l'atelier. Donc, les personnes inscrites sur la liste complémentaire pourront rentrer. Donc, nous allons vous emmener dans l'espace atelier. Et je vous promets, nous réinviterons Jean-Paul Branlard pour une autre conférence.
Merci. Donc vous aurez l'occasion justement de comparer les chocolats aux graisses végétales de ceux autres que le beurre cacao avec les chocolats vrai beurre de cacao. Et vous verrez vous-même si vous êtes capable de détecter donc la différence.